Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Il est 6h40. À la une de l'économie ce matin, une menace peut-être existentielle pour le transport aérien. Le ministère de la Transition écologique organise demain, samedi, une réunion de concertation sur les mesures qui avaient été préconisées en juin, rappelez-vous, par la Convention citoyenne sur le climat, en l'occurrence les mesures concernant le transport aérien. Autour de la table, les participants à cette convention, bien sûr, les dirigeants des compagnies aériennes, des élus, des ONG et sur la table une proposition radicale, l'éco-contribution renforcée. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors l'objectif est clair, hein, dissuader par le prix les gens de prendre l'avion.
Voilà, 4,2 milliards d'euros en 2021, c'est la facture que devra payer le secteur aérien selon une récente étude d'impact réalisée par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Pour Air France, le coût de cette éco-contribution, évalué cette année à près de 60 millions d'euros, sera multiplié par 20. Sur un billet aller-retour Paris-Nice, cela entraînerait une majoration de 60 euros, rapporté à un prix médian de 90 euros sur Air France. Pour tout le secteur aérien, c'est la consternation. Plusieurs compagnies aériennes françaises traversent déjà de graves difficultés. Une majoration de l'écotaxe d'une telle ampleur serait un coup de grâce, toujours selon la Direction Générale de l'Aviation Civile. Entre 120 000 et 150 000 emplois seraient menacés. Il va falloir prendre rapidement une décision, car un projet de loi doit être déposé avant la fin du mois pour une mise en application dès l'année prochaine. D'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Autriche, la Norvège, l'Allemagne ou la Suède ont déjà franchi le pas. Celui réalisé par la France cette année est jugé insuffisant. Il lui faudra faire un effort, à minima un geste, pour sauver la face tout en préservant l'emploi.
Merci Éric Mauban. Que pensent maintenant les Français du plan de relance? Sondage Elabe ce matin pour Radio Classique, Les Échos et l'Institut Montaigne. Eh bien, ils ont des doutes. 58% des répondants estiment que le plan ne permettra pas de rétablir la croissance économique du pays d'ici à 2022. 66% estiment qu'il ne permettra pas de lutter efficacement contre le chômage ni d'accélérer la transition écologique. Par ailleurs, 40% des personnes interrogées envisagent de réduire leurs dépenses dans les prochains mois, alors même que le revenu de la majorité des Français a été peu touché jusqu'ici, moins 2% en moyenne depuis mars selon l'INSEE. Sur le front de l'emploi par ailleurs, pas d'explosion encore du chômage. Le ministère du Travail recense depuis mars tout de même 345 plans de sauvegarde de l'emploi versus 231 sur la même période l'an dernier. Le gouvernement qui par ailleurs dénonce les plans sociaux dits d'aubaine et Bruno Le Maire de citer hier l'exemple de l'américain General Electric qui prévoit de restructurer ses activités énergie renouvelable et réseaux électriques en Europe avec à la clé potentiellement 750 suppressions de postes en France.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h43, l'actualité des entreprises. Avec pour commencer une confirmation, par communiqué hier matin, Suez a renouvelé son refus de l'offre de rachat par Veolia de la part d'Engie à son capital. Le texte dénonce un mirage industriel, une offre hostile. Le directeur général de Suez, Bertrand Camus, va maintenant prendre son bâton de pèlerin et partir à la rencontre du marché pour convaincre des investisseurs de bâtir une contre-offre. Veolia-Suez, deux sœurs ennemies depuis 150 ans. L'offensive de Veolia donne lieu en ce moment à une de ces batailles dont le patronat français a le secret. Céline Cajoulis.
Il y a d'abord deux dirigeants que tout oppose. Pour Antoine Frérot, en fin de carrière, c'est l'opération de sa vie. Et pour Bertrand Camus, jeune PDG, c'est l'occasion d'asseoir sa légitimité. Chez l'un comme chez l'autre, le sujet est forcément passionnel. Et puis, il y a aussi tous les grands rivaux. Banquiers d'affaires et avocats sommés de choisir un camp. Et aussi quelques tontons flingueurs à la rancune tenace comme Henri Proglio, ex-PDG de Veolia. En 2006, il n'a pas réussi à mettre la main sur Suez. Alors l'idée que son ancien bras droit réussisse lui est tellement insupportable qu'il s'est rapproché de Bertrand Camus. Enfin, on trouve aussi du beau monde au conseil d'administration de Suez. Il y a notamment Isabelle Cochère, débarquée d'Engie par Jean-Pierre Clamadieu. Elle est vent debout contre le projet, tout comme Anne Lauvergeon, ancienne d'Areva, devenue Orano, sous la présidence de Philippe Varin, qui vient lui d'arriver chez Suez. Et si la bataille est importante pour Bertrand Camus, elle est aussi pour Jean-Pierre Clamadieu, dont le bilan chez Engie est mitigé. En 7 mois, il n'a toujours pas trouvé de nouveau directeur général.
Les marchés pour terminer sans grand élan hier après la Banque Centrale Européenne, un politique monétaire, programme de rachat d'actifs maintenu inchangé par la BCE. Christine Lagarde dit quand même surveiller la hausse de l'euro, plus 10% face au dollar depuis mai. Aucune mesure particulière en revanche pour le moment. À Paris, le CAC 40, lui, moins 0,38%, 5023 points. Le CAC qui dans deux semaines accueillera un nouveau pensionnaire, en l'occurrence Alstom, qui remplacera Accor. Le titre Accor a fondu de près de 40% depuis 6 mois, sans perspective de redressement. À Wall Street, le Dow Jones lui cède 1,45%, 27 534 points. Le Nasdaq, moins 2%, 10 919 points. Pas sûr que la Big Tech continue dans les mois à venir à porter à bout de bras les indices américains. Et bien justement, on en reparle dans un instant dans le Focus Echo, 6h45.